Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Nico Kalambay. À la une de ce midi, 8 morts, c'est le bilan de l'incursion des ADF à Ndimo, en chefferie Wallace et Vokuntu en territoire d'Irumu. L'association des étudiants et élèves ressortissants de Hicha et d'Irumu exige le déploiement d'un fort dispositif des militaires pour déloger ces rebelles qui se sont installés dans la zone. La population de Miabi s'inquiète du non-versement de la redevance minière par les entreprises qui exploitent le minerai. Du côté du gouvernement provincial, on affirme qu'on attend la transmission des noms des co-gestionnaires du compte dans lequel des fonds dus à ce territoire doivent être reversés. L'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo est notre invité. Jean-Marc Chantaignier revient sur la contribution financière de l'Union européenne concernant l'arrivée en RDC des doses des vaccins et son apport à l'initiative COVAX qui s'élève à 2,2 milliards d'euros. Encore une fois, merci de suivre Radio Okapi. À Ituri, 8 personnes sont mortes la nuit dernière au cours d'une nouvelle attaque des rebelles des ADF au village d'Apende en chefferie de Wallace et Vokuntu dans le territoire d'Irumu. Des sources sécuritaires déplorent également la destruction d'une dizaine d'habitations ainsi que le pillage des bêtes. L'association des étudiants et élèves ressortissants de Hicha et d'Irumu exige le déploiement d'un fort dispositif des militaires pour déloger ces rebelles qui se sont installés dans la zone. Le point avec Ezekiel Mozalia.
Ces rebelles ont tiré plusieurs coups de feu pendant leur incursion dans la localité d'Apende, située à plus ou moins 100 km de la ville de Bunia sur la route Komanda Luna sur la RN4. Assimilés par la population aux agents de l'ordre, ces inciviques ont appréhendé 3 civils et les ont dépouillés de leurs biens. Ces personnes ont été ensuite ligotées par ces rebelles qui les ont découpés à la machette. Leurs corps ont été abandonnés sur place. Des tirs nourris ont été entendus pendant plusieurs heures dans cette entité. D'autres corps ont été découverts dans la brousse, affirme le président de l'association des étudiants et élèves ressortissants de Hicha et Irumu, Aeroé en sigle. Les victimes ont été abattues par ces mêmes groupes armés, affirme la même source. Le président de cette structure, Prince Kambale, rapporte que plusieurs boutiques de la place ont été également pillées ainsi que des bêtes emportées. Des sources concordantes dans la région alertent sur la présence massive de ces hommes dans cette localité. Toutefois, l'armée poursuit l'ennemi en errance dans la zone, apporte cette structure citoyenne. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, des violents affrontements ont opposé ce mardi matin de groupes milices dans l'agglomération de Bukumbiroa. C'est dans le groupement Ikobo, au nord-est du territoire de Walikale. Selon les sources sur place, le Ndoume Defense of Congo de Guidon a lancé une offensive contre le front des Patriotes pour la paix de Kabidon dans ce village. Conséquence, la population locale qui venait de regagner la zone est de nouveau sur le chemin d'exil. Bernardin Nyangui.
Cet accrochage a éclaté vers 5h du matin, indiquent les sources administratives et civiles locales. Elles ajoutent qu'après environ une heure d'affrontement, les éléments des FPP AP de Kabidon auraient été délogés de Bukumbiroa, qui serait reconquis par les hommes de Guidon Mouissa. Ces accrochages ont forcé environ 1 000 000 d'habitants qui venaient juste de se réinstaller il y a moins d'un mois, après une longue période d'exil, à fuir à nouveau leur village. Les uns ont pris la direction de Buleusa, au chef-lieu du groupement, et les autres vers Roussamambu. Du coup, ce village reste de nouveau sous la seule occupation des combattants NDC rénovés. La société civile locale plaide pour le déploiement des FARDC pour stabiliser Bukumbiroa, qui, selon elle, reste sous l'emprise de groupes armés depuis plus d'une décennie maintenant. Elle ajoute que la situation reste imprévisible jusqu'ici dans la zone du fait que d'autres combattants de Kabidon en provenance des Mbouavignois au sud de Lubero auraient été vus arriver en renfort en direction de Bukumbiroa. Goma, Bernard Nyangui, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, dénonce l'insécurité grandissante dans la commune rurale de Mangina, à plus ou moins une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Beni. Selon cette structure de défense de droits humains, certains éléments des services de l'ordre seraient parmi les bandits auteurs de plusieurs braquages et vols à jamais armés, dont le dernier cas en date remonte au week-end dernier. À Butembo, 16 prévenus sont condamnés chacun par la cour militaire du Nord Kivu par défaut à la peine capitale dans le dossier de l'assassinat du médecin camerounais Richard Muzoko. Ce verdict a été rendu ce lundi à Butembo après un procès de 2 semaines. Parmi les condamnés, on retrouve le docteur Mundama que le ministère public avait présenté dans son réquisitoire comme cerveau moteur de l'assassinat. Ce dernier avait pris fuite à l'étranger quelque temps après le meurtre de cet agent de l'OMS et avait fait savoir le ministère public dans son réquisitoire. Florida Kahambu pour les détails.
24 personnes étaient poursuivies par les ministères publics dans cette affaire. Elles étaient accusées notamment du terrorisme, assassinat, association de malfaiteurs, vol à main armée et autres. Parmi les 24, 16 dont les docteurs Mundama sont en cavale et 8 seulement étaient à la barre. Parmi les 8, 5 ont été acquittés. Il s'agit des docteurs congolais Sangala et Luendo. Les 3 autres acquittés sont des femmes vendeuses de la boisson alcoolique qui avaient été arrêtées pour association de malfaiteurs. Les 3 autres personnes qui ont comparu devant les juges ont été condamnées entre 3 et 5 ans de servitude pénale. Il s'agit du docteur Kasereka, condamné à 3 ans pour association de malfaiteurs. Il y a également 2 miliciens qui ont écopé de 5 ans de servitude pénale chacun pour participation au mouvement insurrectionnel. Dans les mêmes prononcés, la Cour condamne solidairement tous les prévenus déclarés coupables de terrorisme et toutes ses composantes au paiement de 15 000 $ à titre de dommages et intérêts à verser à l'Université catholique du Graben en sa qualité de partie civile. D'après la Cour, les prévenus qui avaient tiré à bout portant sur le docteur Richard Muzoko et parmi les fugitifs. Butembo, Florida Kahambu. Radio Capi.
Direction Lubumbashi, des graves incidents ont éclaté ce lundi dans l'avant-midi au village Kisonfou, situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Kolwezi dans le Lualaba. À la base, le meurtre d'un creuseur par un militaire. Les creuseurs, en colère, ont détruit plusieurs biens avant d'être dispersés par la police venue en renfort de Kolwezi. Jean Gandou pour les détails.
Les premières informations en notre possession indiquent qu'un creuseur artisanal a été tué dans la nuit de dimanche à lundi dans une carrière minière située au village Kisankala. Ses amis, qui soupçonnaient un militaire d'en être l'auteur, ont transporté son corps jusqu'à la résidence de cet homme en uniforme au village Kisanfou à 4 km du lieu du drame. D'après la société civile, les manifestants ont détruit la maison de l'incriminé avant de reprendre le corps et d'aller le déposer sur la nationale numéro 1 menant vers la ville de Kolwezi. Puis ils se sont transportés jusqu'au bureau de la police qu'ils ont incendié, laissant ainsi ses échappé tous les détenus. Les véhicules qui étaient garés ont aussi été brûlés. La circulation a été perturbée pendant plusieurs heures. Aucun véhicule ne pouvait passer à cet endroit. En début d'après-midi, les policiers partis de Fungurume et de Kolwezi sont arrivés sur les lieux pour établir l'ordre en tirant en l'air, ce qui a permis la reprise du trafic sur cet axe routier. Toujours d'après la même source, 2 personnes auraient été blessées et transférées à Fungurume pour les soins. Quant au creuseur tué, son corps a été ramené à Kolwezi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent au Kasaï oriental. Je le disais en titre, la population du territoire de Miabi s'inquiète du non-versement de la redevance minière par les entreprises qui exploitent le minéré. Parmi les entreprises qui exploitent le diamant, il y a aussi la société Anui d'investissement minier, la SACIM en sigle. D'après la société civile du Congo au territoire, ces redevances minières devraient être reversées aux entités pour faciliter leur développement, tel que prévoit le code minier. Du côté du gouvernement provincial, on affirme donc qu'on attend la transmission des noms des co-gestionnaires du compte dans lequel des fonds dus à ce territoire doivent être reversés. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est la énième fois que la population du territoire de Miabi manifeste leur inquiétude autour du non-reversement de la redevance minière. Depuis le début de ce mois, la population revient à la charge et rappelle aux autorités le respect du code minier. Cette revendication est souvent rappelée lorsque les autorités participent aux activités organisées dans ce territoire. Pas plus tard qu'hier, la société civile du Congo est montée au créneau et souhaite que leur entité soit développée. La population n'hésite toujours pas de pointer du doigt le chef traditionnel. Raison pour laquelle le grand chef coutumier et député provincial du territoire de Miabi demande aux tireurs de ficelles d'être calmes. Roger Kabeya Chimbundu.
Le code minier et le règlement minier qui prévoit quand même certains droits qui sont reconnus aux communautés locales. Donc contribution au projet de développement communautaire. Mais il s'est fait que jusqu'ici, la population ne se retrouve pas. Allemand pointer du doigt sur les chefs, on dit est-ce que les chefs n'auraient pas reçu. Les tireurs de ficelles essayent d'amplifier. Je lance un appel au calme, je l'ai fait dernière fois, je continue à le faire.
Côté gouvernement provincial, l'on affirme que le processus est en cours. Selon le ministre provincial des Mines, le gouvernement n'attend que les noms des co-gestionnaires de comptes membres de l'administration territoriale pour décanter cette situation. Esther Ndalafina Mbujimaï, Radio Okapi.
La foire internationale de Kinshasa a été retenue comme site principal devant abriter les 9e Jeux de la Francophonie prévus au mois d'août 2002. En prélude de ces Jeux, tous les locataires de la Fikine ont été sommés de déménager pour permettre l'exécution des travaux de réhabilitation de la foire. Beaucoup de tenanciers des débits de boissons et stands de jeux se réjouissent de cette initiative pendant que d'autres s'en plaignent. Reportage de Jeff Ngoy.
Au programme, on note notamment la réhabilitation de la voirie de la foire à laquelle l'OVD s'attelle déjà. La construction d'une piscine olympique selon les responsables de la foire qui espèrent réinstaller des manèges. La construction de maisons préfabriquées pour héberger les étrangers, l'aménagement des aires de jeux, des pavillons, des restaurants. Une satisfaction mitigée pour cette cuisinière de l'espace Plaza.
Moi, je trouve que c'est bon d'embellir les quartiers aussi. Mais nous, quand même, on va rester dans notre établissement. Les autres gens, ils ne sont pas préparés pour ça. Ça a pénalisé d'autres gens. Le chômage a encore augmenté. C'est ce qui me fait très mal au cœur, vraiment.
Nous avons trouvé ces gymnastes en train de démonter ces machines.
Je suis le premier, si vous voyez, tout le monde devait quitter. Mais je suis le premier dans Zobuka. Maintenant, aujourd'hui, il y a une chance à francophonie. Il va ramener de la beauté, même le côté en Afrique. Et puis, si tu tu ramènes ce que tu as.
Mais certains footballeurs restent mécontents.
C'est très tôt. Hein.
Mais il semble que les gens étaient prévenus. Il y avait un préavis depuis une année.
Même pas. On lui a donné seulement 10 jours, je crois bien. On a tué la jeunesse. On va s'entraîner où?
Les responsables de la Fikine qui requièrent l'anonymat comptent sur le retour des activités foraines internationales en 2023 après les Jeux de la Francophonie.
Dans la province de la Tshopo, le noyau de coordination des personnes vivant avec handicap, toutes catégories confondues, plaide pour l'accessibilité des femmes vivant avec handicap à l'outil informatique et à la formation en leadership féminin. Ce plaidoyer a été fait lundi au Centre Espoir des Sourds au cours d'une matinée de sensibilisation des femmes vivant avec handicap sur le rôle qu'elles doivent jouer en tant que personnes humaines à part entière dans le développement de leur milieu. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Diverses catégories de femmes vivant avec handicap ont pris part à cette séance de sensibilisation. Il s'est agi des femmes vivant avec albinisme, des handicapés physiques, des sourdes et autres. Pour l'oratrice du jour, Dr Véronique Lemba, en cette journée internationale des droits de la femme, il est opportun de leur expliquer le sens de cette journée, mais il est surtout un devoir de les conscientiser pour qu'elles s'impliquent à leur propre formation, afin de contribuer au développement de leur milieu. Pour cela, elles doivent accéder à l'outil informatique et à la formation.
Le monde d'aujourd'hui, c'est le numérique. Les choses se passent par-ci, par-là et on le découvre qu'à l'Internet. Alors, les femmes qui ont la chance d'être formées et de s'approprier de l'outil informatique ou de certaines formations de leadership, je crois que ça sera utile d'abord pour leur auto-formation, mais aussi pour leur visibilité.
Par ailleurs, au cours de la célébration officielle de cette journée à l'Alliance française de Kisangani, la ministre provinciale du genre, famille et enfants a exhorté les femmes de la Tshopo à faire fédérer leurs énergies afin d'améliorer leur situation sociale. Albertine Likoke leur a demandé également de se battre pour contrecarrer la masculinité négative de certains hommes qui veulent s'accaparer des tout pour ne jamais partager les responsabilités avec les femmes. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, un appel au calme et à la sérénité a été lancé lundi 8 mars au soir par le président Macky Sall. Le chef de l'État s'est exprimé dans un message à la nation après plusieurs jours de manifestations violentes qui ont fait au moins 5 morts selon un bilan officiel et 8 selon Amnesty International. Des troubles liés à la procédure judiciaire concernant Ousmane Sonko, mis en liberté sous contrôle judiciaire ce lundi, est inculpé dans une affaire de viol présumé. L'opposant a lui aussi fait une déclaration en fin de journée juste avant le chef de l'État et a appelé à la poursuite. Suite des mobilisations. En Guinée équatoriale, plus de 100 morts et 615 blessés. Le bilan s'alourdit après l'explosion dimanche 7 mars d'un dépôt des munitions à Bata, la capitale économique. Les autorités équato-guinéennes font appel à l'aide étrangère. Pour faire face, le gouvernement équato-guinéen a mobilisé tous les médecins du pays et enjoint la population à donner son sang.
L'invité.
Notre invité est Monsieur Jean-Marc Chantaignier, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Le diplomate européen revient sur la contribution financière de l'Union européenne concernant l'arrivée en RDC des doses de vaccins et son apport à l'initiative COVAX qui s'élève à 2,2 milliards d'euros. Il invite par ailleurs les Congolais de plus de 55 ans et les personnes à risque à se faire vacciner pour se préserver de la COVID-19. Monsieur Chantaignier s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Jean-Marc Chantaignier, bonjour.
Bonjour.
Plus d'un million et demi de doses de vaccins anti-Covid ont été remis mercredi au gouvernement et le ministre de la Santé a annoncé la campagne des vaccinations pour la semaine prochaine. Quelle serait la contribution de l'Union européenne à ce niveau?
Écoutez, nous avons déjà massivement contribué au financement de ces doses de vaccins, le vaccin AstraZeneca, qui sont arrivés en RDC. 1 700 000 vaccins sont arrivés, sont entreposés et donc qui ont été largement financés notamment par la facilité COVAX auquel l'Union européenne contribue massivement. Nous y apportons une contribution avec nos États membres de plus de 2,2 milliards d'euros. Donc c'est vraiment massif. Et ensuite, nous participons, nous finançons aussi la Banque mondiale, nous finançons nos propres programmes qui vont participer à la distribution de ces vaccins.
Puisque vous parlez de la contribution, selon la presse, l'Union européenne vient de débloquer 500 millions d'euros supplémentaires en faveur du programme COVAX, vous l'avez dit. Quelle est la part de la RDC dans ce montant?
Alors, pour être très précis sur les chiffres, nous avions annoncé un financement en premier de 500 millions d'euros. Le 19 février dernier, Ursula von Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé un doublement de cette contribution, de 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Ensuite, nos États membres, dont l'Allemagne, apportent 1,2 milliard d'euros. Donc la Team Europe, les États membres de l'Union européenne, apportent 2,2 milliards d'euros au COVAX. Ensuite, ce qui est financé, ce ne sont pas des allocations financières pour les pays, mais c'est l'achat de doses de vaccins. Et ce qui est distribué, ce sont des doses de vaccins, ce sont des vaccins. Et donc, je ne peux pas vous dire exactement la part de l'Union européenne, mais elle est très importante. Dans les vaccins, dans les 1,7 million de vaccins qui ont été amenés avant-hier en RDC, il y a une très large part qui a été financée par l'Union européenne.
Oui, donc c'est gratuit, c'est un don?
Écoutez, c'est un don, oui, c'est un don, très largement un don pour la RDC.
Merci. Et malgré ces programmes COVAX que vous avez énoncés tout à l'heure, l'accès à la vaccination contre la COVID demeure inéquitable entre pays riches et pays pauvres, bien entendu. Le secrétaire général des Nations Unies l'a dénoncé au Conseil des droits de l'homme. Comment justifiez-vous, monsieur l'ambassadeur, l'incapacité ou le refus des pays riches d'assurer un accès équitable aux vaccins dans le monde et particulièrement en Afrique?
Écoutez, je crois que la citation en fait date un petit peu par rapport à la réalité et par rapport aux distributions que nous sommes en train de faire. Nous apportons 1,7 million de doses en RDC pour appuyer le programme du gouvernement congolais qui vise à cibler des publics prioritaires. Toutes les personnes qui ont plus de 55 ans vont pouvoir se faire vacciner. Toutes les personnes qui ont des causes de comorbidité vont pouvoir se faire vacciner en RDC. Et toutes les personnels de santé vont pouvoir se faire vacciner. C'est vous dire, par exemple, qu'en RDC, j'ai plus de 55 ans, demain, je peux aller demander à me faire vacciner. Ma maman, qui a 74 ans en France, n'a pas encore pu se faire vacciner. Donc, je pense qu'on a pris conscience, depuis la déclaration du secrétaire général, de cette iniquité qui pouvait se produire, mais qu'elle est déjà largement compensée.
Comment elle est compensée, cette iniquité?
Moi, demain, je peux me faire vacciner à 55 ans et que ma maman, à 74 ans en France, elle ne peut pas se faire vacciner. C'est très précis. C'est inéquitable dans un autre sens, en fait, dans la réalité. Mais c'est pour vous montrer que nous avons apporté un effort de solidarité absolument massif en fournissant ces doses, ces financements. Alors après, bien sûr, l'enjeu est global, il est mondial. Nous sommes 7 milliards et demi de personnes sur cette terre. Et donc, l'objectif, c'est d'atteindre 60% de la vaccination mondiale. Et bien là, nous sommes effectivement engagés dans une course à la production des vaccins. Je rappelle aussi, et c'est très important pour mes interlocuteurs et nos auditeurs congolais, que c'est un vaccin volontaire, que ce n'est pas obligatoire, et que chacun est libre ou pas de se faire vacciner.
Monsieur l'ambassadeur, vous avez une recommandation à faire à la population congolaise qui vous suit maintenant en ce qui concerne justement ces campagnes de vaccination qui s'annoncent?
Il y a encore des cas de Covid en RDC. Il y a des gens qui meurent du Covid. J'invite les personnes qui sont les personnes âgées, les personnes qui ont des facteurs de comorbidité, l'hypertension, l'obésité, les personnels de santé, mais eux-mêmes le savent, j'invite ces personnes à se faire vacciner. Elles vont se protéger et elles vont aider aussi à répandre l'immunité de la maladie.
Pour terminer, M. Châtaignier réitère son engagement de se faire vacciner.
Je le réitère absolument. Moi, je souhaite vraiment me faire vacciner le plus vite possible, mais je ne veux pas voler, entre guillemets, ou prendre une dose d'un Congolais.
Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie.
Je vous remercie très sincèrement.
Ainsi se referme cette session de nos informations sur Radio Okapi. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Jean-Noël Mokonzo était à la mise en onde, Élisée Chikota à la réalisation, Martin Sebujango à la supervision. Je me nomme Nico Kalambay. Ne partez pas, nos programmes se poursuivent.